Non, il fait de la langue de bois. C'est pas la même chose. Ah. Non, c'est la même chose. Mais je vais vous expliquer. C'est parce que j'ai pas fait 250 pages pour dire il y a d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. J'ai essayé de faire un vrai travail. On se connaît suffisamment depuis toutes les années que je viens chez vous. Vous vous doutez bien que j'ai pas dit, tiens, alors voilà, il y a un grand 1, il y a les gentils, grand 2, il y a les méchants. Donc j'ai fait un travail de décortiquage et j'ai rappelé à cette occasion qu'en réalité, lorsque les populistes prennent le pouvoir, ils le font avec un ADN totalement différent d'une autre. Et la preuve d'une autre du parti de gouvernement. Et d'ailleurs, on le voit dans l'histoire. Et j'ai donné des exemples. Et si on veut prendre un exemple d'actualité, bah on a le cas du bilan désastreux de Orban en Hongrie, qui a coulé son pays avec une politique totalement populiste, qui s'est fait élire en faisant des tas de promesses totalement intenables. Il n'a fait aucune réforme. Il a généré systématiquement la radicalisation des minorités en prenant comme bouc émissaire l'Europe, l'étranger, en faisant des œillades à Poutine, lui-même évidemment populiste, et il a serré les libertés dans des conditions incroyables. Résultat des courses, il est écrasé après avoir interdit, après avoir poursuivi les opposants, mais là cette fois-ci il a été écrasé aux élections. Pourquoi ? Bah parce que le bilan est catastrophique et que si, quand on me dit ah oui mais il est parti donc il est démocrate, non il est parti parce qu'il a eu peur de la rue. Faut pas se mentir. Bon, donc vous avez là un exemple typique, mais vous en avez d'autres. Vous avez Trump, qui de la même manière montre aujourd'hui les ravages de ce que peut donner un chef d'État, un homme politique populiste arrivé au pouvoir avec des stratégies de radicalisation. Et donc moi, mon combat, il est de dire attention, attention, parce que dans un an, tout le monde nous annonce la victoire du RN. Ben moi, je préfère prévenir, le discours et le programme du RN aujourd'hui est totalement infondé, fondé sur les peurs, pas documenté budgétairement. Et derrière tout ça, c'est un risque d'effondrement.
Antoine, une question là, vous parlez de beaucoup de dirigeants étrangers. Milei, pour vous, c'est populiste ou pas ?
Bien sûr, je l'ai cité dans le livre. Si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez. Typiquement, le cas du leader du président argentin est typique. C'est-à-dire que vous avez d'abord, ne comparez surtout pas l'Argentine à la France, d'un pays surendetté, corrompu depuis 1945 et rongé par le populisme péroniste. Voilà. Donc, on est vraiment dans une approche typique de ce point de vue.
J'ai manqué le passage Milei, mais j'ai lu votre livre et je vais vous le montrer. vous voyez, moi, j'ai une difficulté avec vous, c'est bien écrit, mais j'ai une difficulté à ce que tout soit populiste. Dès que c'est pas d'accord avec vous, dès que c'est pas sur votre ligne, c'est populiste. Alors que, en réalité, les partis de gouvernement dont vous parlez n'ont pas démontré leur efficacité. Et c'est bien le problème. Vous étiez à l'époque le leader de la droite décomplexée. Quand j'étais jeune militant de droite, j'ai adoré le Jean-François Copé de la droite décomplexée. Et puis après, il y a le Jean-François Copé de 2022-2024 qui dit faut peut-être qu'on travaille avec Macron. Après, il y a le Jean-François Copé, et vous l'écrivez très bien, qui dit que la dissolution par Macron était une catastrophe. Et donc, en fait, finalement, on sait plus qui est Jean-François Copé. C'est le Jean-François Copé de la droite décomplexée avec un discours solide, sérieux, que certains pourraient même dire populiste, imaginez-vous, par moment. Ou c'est le Jean-François Copé, centriste complexé d'aujourd'hui, qui essaye de se repositionner dans un monde politique difficile.
Et j'ai été traité d'islamiste par CNews. J'imaginais pas qu'aux grandes gueules on l'allait me traiter de centriste. C'est bien parce que je sais pas ce que je préfère. J'arrive.
Non, mais écoutez, aujourd'hui.
Écoutez-moi. On va être très très précis. Si vous m'avez lu, donc je veux bien vous croire, mais j'ai parfois des petits doutes. Mais en tout cas, allez, vous m'avez lu. Il y a une partie entière sur les trois. Écoutez-moi.
Je trouve ça ridicule, l'Allemagne des années 30, page 19.
Ridicule.
C'est facile.
Vous avez noté que j'ai pas employé le mot par rapport à ce que vous venez de dire, et pourtant il y avait des passages qui pouvaient m'inspirer sur ce mot. Donc juste pour revenir là-dessus, je ne pouvais pas dire que vous m'avez lu et ne pas avoir vu qu'une des trois parties est intégralement consacrée aux ce que j'ai appelé les sept péchés capitaux des partis de gouvernement qui ont fait le lit de la montée au pouvoir des populistes.
Vous ne citez pas Sarkozy. Sarkozy,
alors vous m'avez encore pas lu.
Pardon.
Je l'ai évoqué. J'ai évoqué très clairement. Bah écoutez, je sais ce que j'ai écrit quand même. J'ai évoqué très clairement le fait que que les partis de gouvernement n'ont pas fait ce pourquoi ils avaient été élus, ils ont été durablement sanctionnés, à commencer par la droite. Et c'est le grand rendez-vous manqué de la période 2007-2012 que j'ai évoqué, parce que effectivement, il a baissé les effectifs de police, il a laissé filer les déficits, et puis est arrivé un certain nombre de décisions qui malheureusement nous ont coûté extrêmement cher et qui ont permis l'arrivée de Hollande. Juste une dernière chose, qu'on soit très très clair. Ce que j'explique dans ce livre, Et vraiment, c'est fondamental. C'est qu'il n'y a pas une différence d'opinion entre un parti populiste et un parti de gouvernement. Il y a une différence de nature. C'est-à-dire qu'en réalité, là où le parti populiste dit « mais c'est très facile », c'est pour ça que j'ai appelé ça les charlatans face aux médecins, le parti de gouvernement assume que c'est difficile. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un leader de gouvernement qui, de temps en temps, sombre dans la facilité du populisme. Vous l'avez rappelé, et je l'ai moi-même décrit dans le livre. Mais je veux aussi rappeler une autre chose, c'est que les partis de gouvernement, ils ont perdu la bataille du récit. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont réussies et qu'ils n'ont jamais assumées. La gestion de la crise financière dans les années 2008-2009, Dieu sait si je suis pas tendre avec Sarkozy, mais là-dessus, les responsabilités ont été prises par le couple Sarkozy-Merkel. La crise contre la lutte contre le terrorisme, Dieu sait si je suis pas proche de Hollande, ça se saurait. Mais je l'ai écrit, la manière dont à ce moment le gouvernement a réagi était évidemment la bonne. D'ailleurs, regardez les dispositifs qui ont été mis en place. Et le Covid, même chose. D'ailleurs, ça a rendu hystérique et Le Pen et Mélenchon, qui à ce moment-là osaient parler de dictature sanitaire, quand dans le même temps, dans les vrais gouvernements populistes, Russie, Chine ou autres, on enfermait les gens, on avait un vaccin qui marchait pas. Bon, quand même, il faut rappeler aussi tout ça.
Mais le quoi qu'il en coûte, c'était populiste, le quoi qu'il en coûte, de dire le quoi qu'il en coûte, de dire on va tous vous sauver, on va assurer financièrement ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on en paye.
Mais vous savez ce qu'on paye aujourd'hui? C'est que Macron n'ait pas eu le courage d'arrêter les frais. Il fallait faire le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Et heureusement qu'on l'a fait, c'est ce qui a sauvé nos entreprises. Et on ne le rappelle pas suffisamment. En revanche, dès que l'épidémie était enrayée, il fallait tout de suite arrêter. Or, le problème, c'est que les autres pays ont arrêté les aides, sauf le nôtre. Parce que malheureusement, Emmanuel Macron a commencé à partir de ce moment-là.
Présidentielle aussi.
Oui, mais enfin.
Ah, est-ce que c'est pas populiste? Okay, finalement, faire des chèques avant une élection présidentielle.
Mais quand il est élu, au lendemain, au lendemain de son élection, il coupe les aides. Ce qu'il s'est bien gardé de faire, comme il s'est gardé d'avoir une majorité absolue avec LR.
Élu, donc c'est parce que
et en 2022, vous étiez prêt à travailler avec lui. Si du moins, vous disiez...
C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Parce que là aussi, il faut être précis, même quand on est chroniqueur aux grandes gueules.
Je suis assez précis.
Bon, mais assez, voilà. Tout est dans le assez. Qu'est-ce que j'ai rappelé? J'ai rappelé que la 5e République, elle fonctionne pas si on n'a pas de majorité absolue. Ok?
Oui,
donc, à partir du moment où il manquait un certain nombre de députés, il aurait fallu que M. Macron disent, ok, les Français m'ont pas donné de majorité absolue, je change mon programme, je le droitise, notamment sur les questions de sécurité qui est son grand échec, et d'immigration, et je propose un pacte de gouvernement avec les Républicains, et dans lequel, à ce moment-là, on refait une majorité absolue. C'était ça mon message. Donc c'était pas de gouverner avec le centre-gauche, c'était de gouverner avec le centre-droit.
Puisque vous parlez d'immigration...
On a d'ailleurs toujours fait, je rappelle, vous étiez à l'UMP quand vous étiez plus jeune, l'UMP c'était la droite et le centre-droit. Voilà. Et moi je défends toujours une droite décomplexée. C'est-à-dire une droite qui est étanche avec le RN, mais qui en même temps dit les choses, et quand on est maire de Meaux, on dit les choses.
Prenons une mesure qui a été prononcée cette semaine par Gérald Darmanin, qui propose un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale. Alors, est-ce que c'est populiste? C'est faisable?
C'est indispensable, surtout.
C'est indispensable.
Bien sûr. La vérité,
comment on fait?
D'abord, on fait ça par ordonnance. C'est-à-dire qu'il existe en France un dispositif qui permet d'aller beaucoup plus vite que la loi traditionnelle qui dure 18 mois. C'est comme dans une société où il faut 18 secondes pour faire un tweet, 18 mois pour faire une loi, c'est pas du tout adapté. L'avantage des ordonnances, d'ailleurs c'est ce qu'avait fait De Gaulle en 58, c'est de prendre par ordonnance, tout de suite, c'est l'article 38 de la Constitution, les 20 ou 30 décisions qui déverrouillent ce pays dans tous les domaines. Les retraites, l'immigration, la sécurité, c'est indispensable et c'est ce que j'ai écrit en toutes lettres dans mon livre. La deuxième chose, c'est que ça doit s'assortir d'autres mesures, ce que d'ailleurs Gérald Darmanin a très, très justement proposé. On ne peut pas rester comme ça. Il faut effectivement rétrécir les conditions du regroupement familial. Il faut évidemment faire en sorte que ce soit une immigration exclusivement du travail, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de choses que ce qu'on appelle les natifs, nos concitoyens, n'ont pas envie de faire, et ce sont des tâches absolument majeures dans de nombreux domaines. Donc il faut bien, face à cette pénurie, qu'on fasse travailler des gens qui veulent travailler, mais uniquement pour le travail. Voilà. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. C'est ce que Darmanin, et d'ailleurs Édouard Philippe et Retailleau proposent. En réalité, il y a plutôt un consensus.
Mais vous avez choisi, vous, pour 2027, c'est Édouard Philippe ou Bruno Retailleau, votre candidat?
Non, pour l'instant, je fais aucun choix pour l'instant. Ça, je vous le dis tout de suite.
Vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas choisi Bruno Retailleau qui est dans votre famille politique?
Non, mais j'ai fait aucun choix pour une raison très très simple. Je m'en suis expliqué. Moi, je n'accepterai jamais aucune facilité avec le Rassemblement National. Ce sont des gens qui sont, comme je vous l'ai dit, c'est tout le thème de mon livre, comme LFI, un parti populiste, c'est-à-dire qui ne travaille pas les solutions.
Bruno Retailleau accepte ces facilités?
Non, mais il y a aujourd'hui une porosité que j'accepte pas. Je l'ai dit très clairement. On ne fait rien avec Jordan Bardella. Je suis désolé. Il y a peut-être des auditeurs parmi ceux qui nous écoutent qui
vont être Jordan Bardella.
Qui
Bruno Retailleau ne fait rien avec Jordan Bardella. Ils ne se rencontrent pas. Ils ne sont pas en discussion.
Quand François-Xavier Bellamy a voté la motion de censure de Jordan Bardella au Parlement européen contre Ursula von der Leyen, je suis désolé, c'est un message. Bon, quand le même n'arrive pas à choisir entre Éric Ciotti et Christian Estrosi, alors que nous avons fait des accords électoraux dans un certain nombre de villes, c'est un deuxième message. Il y en a un certain nombre comme ça. Donc ça s'appelle une porosité. Or, moi, je vois l'état du PS aujourd'hui qui a fait cette alliance avec LFI et qui est aujourd'hui un corps mort. Parce que ils ont lâché sur tout, et notamment sur la laïcité, pour accepter le communautarisme de LFI. Eh ben, j'ai pas envie que la droite de gouvernement tombe dans ce piège énorme. Je rappelle accessoirement que Madame Le Pen a voté avec LFI 40 milliards de hausse d'impôts dans le dernier budget, quand même. Alors, je suis pas sûr que ce soit la philosophie de la droite française. Donc, en fait, on n'a pas grand chose à se dire avec le RN. Alors, je sais que beaucoup d'électeurs ou de militants disent, mais si, il faut faire une alliance avec l'extrême droite. On appelle ça même l'union des droites. Enfin, sauf que le RN, c'est pas du tout un parti de droite. C'est un parti extrémiste qui radicalise les positions, qui est dans la stigmatisation. Et moi, je suis maire de Meaux. La société française, c'est pas celle que décrit ni Monsieur Mélenchon, ni Madame Le Pen.